Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour, bonjour, sur RLP Business numéro 23, aujourd'hui, votre émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs, avec Patrice et Stéphane sur RLP 102.3. Patrice, bonjour, tu vas bien ?
Bonjour à vous tous.
Tu as passé une bonne semaine ?
Oui, excellente, excellente.
Bon, personne n'est allé faire une rave party dans le désert ce week-end, ça va, tout va bien ?
Non, tout va bien. Bon. Les chefs d'entreprise que j'ai croisés sont bien aussi. Je ne dirais pas que c'est l'euphorie, mais on s'en sort, on garde le moral.
Ah, il y a des signaux positifs, ça
oui,
redémarre un petit
oui,
peu.
Oui, mais c'est une histoire aussi de, c'est aussi une histoire de auto-persuasion aussi.
Ah, c'est parfait, la méthode Coué. Bon, on en parlera aujourd'hui avec Valérie Patou de Périgord Performance TPE, ancienne du Crédit Mutuel, LCL, la DEC Atlantique, CER France. Madame Patou, vous êtes là ?
Oui, bonjour Stéphane.
Très bien.
Et bonjour Patrice.
Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir. Nous parlerons de tout ceci avec vous, car je crois que votre travail est d'encadrer les TPE, les PME qui se lancent et qui font du business d'ailleurs dans le Périgord et ailleurs. Mais tout de suite, les actualités, ne bougez pas, c'est juste après ça.
Les actualités.
Alors, cette semaine, il s'est quand même passé certaines petites choses. Nous parlerons du piratage de 23andMe, qui est une société qui collecte les codages génétiques, les gènes des utilisateurs. Moi, je m'y suis inscrit. Ils ont trouvé que j'avais les yeux marrons, les cheveux bruns, etc. C'est très intéressant. On participe à l'évolution de la science. Seul problème, ils se sont fait hacker. 7 millions d'utilisateurs de l'entreprise et sont majoritairement des juifs askénazes se sont retrouvés sur le dark web. Donc, le code génétique de 7 millions de personnes, ça pose quand même quelques petits problèmes. Je voulais aussi parler de la méthode des 4 L dont on entend parler énormément sur Internet aujourd'hui, les 4 L, low cost, donc peu de sous économiques, low human, qui nécessite peu d'humains, low complexity, qui nécessite peu de complexité, et low tech, aucune nécessité d'une dépendance de techniciens, développeurs et autres. C'est comme ceci que des gens font actuellement des fortunes sur Internet en simplifiant au maximum. Exemple, la War Room d'Andrew Tate. Andrew Tate, une personnalité extrêmement sulfureuse, mais qui a appliqué les 4L, low cost, pas de publicité, acquisition via le trolling, il troll, il provoque, donc il y a des gens qui viennent le voir. Low human, il y a un seul administrateur, c'est lui. Low complexity, il n'y a pas de funnel de vente, il n'y a pas de bump, il n'y a pas d'upsell, il y a une seule page très simple, donc low tech, un groupe Telegram, le résultat, 2500 membres qui déboursent 5000 euros chaque année, ce qui équivaut à 12 500 000 dollars par an, le réseautage, encore et toujours un business model qui fonctionne. Autre moyen de faire du business, la technologie pure, comme d'habitude, le jeu, les loisirs, l'argent, les interdits sont des locomotives d'évolution technologique et de changement.
Et cette semaine, Stéphane, qu'as-tu fait ?
Alors cette semaine, je me suis plongé dans le phénomène Stable Diffusion. Stable Diffusion qui fait des images par intelligence artificielle. On crée des modèles, des safe tensors, on fait la génération d'images. Je sais aujourd'hui prendre plusieurs photos pour créer un modèle et placer des modèles, des images sur absolument n'importe quelle photo que je génère ou que je récupère, voire des petites vidéos, au revoir les applis payantes, et visiblement, il y a du business. Alors pour comprendre, je suis allé fréquenter des lieux infréquentables, et le modèle commercial ne s'est pas fait attendre. Donc vous connaissez mon métier, c'est analyser, essayer de comprendre, puis d'expliquer de manière pédagogique en vulgarisant pour optimiser. Alors, sachant qu'un profil OnlyFans ou TikTok peut rapporter beaucoup d'argent, surtout s'il est bien travaillé par une agence prenant en charge le relationnel et les messages, une bonne image sous le manteau peut se négocier jusqu'à 2000 euros. J'ai découvert ça, c'est absolument énorme. Donc on peut créer un compte TikTok ou Instagram ou OnlyFans et qu'il soit vrai ou réel maintenant de moins en moins d'importance. Il y a des agences spécialisées dans le suivi. Il suffit d'avoir plusieurs centaines de milliers de followers et on peut vendre une dizaine d'images par soir. Ça fait un chiffre. Surtout que maintenant, l'image, on peut la générer depuis son ordinateur sans avoir besoin de vrais humains ni de studio de photographie. Mieux ou pire que les purs films de science-fiction, le bis sur Internet, tout un programme.
L'invité de la semaine.
L'invité de la semaine, c'est Valérie Patou, chef d'entreprise sur la Dordogne, chef d'entreprise, alors avec une activité particulière, activité intellectuelle, activité, j'ai envie de dire, multicasquette. Elle accompagne les chefs d'entreprise, de TPE, de petites PME, à mieux gérer leur entreprise, à actionner les bons leviers pour augmenter la performance des entreprises, et tout ça, toute seule, comme une grande, avec un savoir-faire qu'elle a acquis avec le temps. Valérie Patou, Valérie, est-ce que tu nous entends bien? Tu es de Brantôme, tu es à Brantôme en ce moment.
Oui, je vous entends très très bien, et oui, je suis à Brantôme, la magie de la radio opère, donc même à distance, on peut échanger.
Alors Valérie, j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi consiste ton métier, comment tu accompagnes tes clients.
Alors, mon métier, effectivement, c'est d'accompagner les petits patrons, hein, les petits patrons comme moi, dans les entreprises de 1 jusqu'à 20 salariés, et ces entreprises principalement artisanales. Et en fait, je les accompagne pour améliorer et porter le niveau de leurs bénéfices et le niveau de leur trésorerie au niveau qu'ils le souhaitent, à la fois pour faire vivre leur entreprise, mais aussi pour créer de la valeur, de la richesse, de l'investissement, du salaire, et également pour leur permettre d'accomplir leurs projets personnels, leurs rêves personnels. C'est ce qu'on appelle les rêves chez Rivalis, puisque je travaille avec une licence d'exploitation d'un logiciel et d'une méthode de gestion.
Qui s'appelle Rivalis.
Qui s'appelle Rivalis.
Que moi je connais depuis une vingtaine d'années, très très implanté au démarrage dans le nord et dans l'est de la France, qui a fait ses preuves. Il y a des experts comptables qui recommandent aussi cette méthode de gestion, parce que si on la suit, bah, ça évite de faire de grosses erreurs, puis c'est surtout que ça permet et ça facilite d'arriver à des objectifs qu'on se fixe. C'est très pédagogique, c'est très intuitif, c'est très professionnel. Par contre, j'aimerais quand même entendre, Valérie, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, mais comment vous en êtes arrivée là? C'est quoi votre parcours?
Alors, mon parcours, moi j'ai fait des études dans la filière de l'expertise comptable. Alors évidemment, je ne suis pas allée jusqu'à ce diplôme-là, hein. J'ai bifurqué avant. J'ai fait 5 ans en cabinet comptable, en tant que comptable en fait, hein. Je faisais des bilans. Toute la journée, toute la semaine. Au bout de 5 ans, je pense que j'avais fait le tour du métier, hein, parce qu'évidemment, c'est pas en 5 ans qu'on devient expert de son métier, mais j'avais envie d'autre chose, d'une autre dynamique, et j'ai saisi une opportunité dans le secteur bancaire pour intégrer une équipe de conseillers pros qui accompagnent aussi les entreprises, les petites entreprises en agence bancaire locale. Et j'ai saisi cette opportunité-là et je suis restée 7 ans, alors pas dans le même établissement, 6 ans dans le même établissement.
ADEC.
Le crédit mutuel. Alors non, ça c'est le crédit mutuel pendant 6 ans.
D'accord.
Mais avant, effectivement, le cabinet comptable, j'ai fait tout mon début de carrière au Cerf France.
Mm-hmm.
Et la dernière année, j'avais changé de cabinet comptable parce que je voulais donner une autre dynamique à ma carrière, mais en fait, j'avais pas compris que la problématique c'était pas le métier. Enfin, j'avais pas compris tout de suite que la problématique c'était le métier justement. C'était pas forcément l'univers du cabinet. Et en fait, moi, je m'éclatais plus dans ce que je faisais. Je voulais faire du conseil, je voulais faire du projet, je voulais sortir, je voulais voir des gens, je voulais prospecter, je voulais parler avec des gens, rencontrer du monde. Et dans mon métier, j'avais fait le tour en comptabilité, hein. C'est ça, en fait, cet aspect-là, moi, je l'avais pas à mon niveau. Et c'est pour ça que je suis passée en banque et au Crédit Mutuel. J'ai fait mes 6 dernières années de carrière en tant que salariée au Crédit Mutuel. Je me suis éclatée, hein. J'ai passé des super moments, j'ai fait des super projets, j'ai rencontré des gens incroyables.
En gestionnaire de compte professionnel?
Ouais, gestionnaire de compte professionnel uniquement. Et toute ma carrière n'était que d'accompagner les entreprises. Je ne sais pas faire autre chose, voilà.
D'accord, donc un DECF au départ?
Un DECF, après un niveau DESCF. Mmh. Alors maintenant ça s'appelle DSCG, hein. Ça n'existe plus les DESCF et les DECF, mais oui c'est à peu près ça, c'est niveau master.
Vous avez enseigné en DECF, donc vous avez aussi une formation en informatique de base, informatique de gestion de base, vous comprenez au moins les outils qui vous sont présentés.
Je comprends les outils bureautiques qui me permettent de fonctionner dans mon quotidien de chef d'entreprise et d'analyste de chiffres, quoi.
D'accord.
Mais après effectivement je ne suis pas la plus brillante sur les sujets qu'on vient d'évoquer
notamment
la sphère virtuelle.
Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une formation comptable, on sait que le comptable aujourd'hui peut soit être quelqu'un qui gère uniquement des chiffres sur un tableau, soit se transformer en conseiller. Et oui. Dans votre parcours, sur une quinzaine d'années, vous avez eu envie ensuite d'aller dans le conseil et d'aller dans la mise en pratique, donc en fait d'aller plus loin que la comptabilité pure.
Tout à fait, parce qu'en fait la valeur ajoutée de notre métier, c'est le conseil, c'est pas l'opérationnel. Aujourd'hui, effectivement, on en revient aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, un cabinet comptable peut très bien substituer un assistant comptable par des outils informatiques. C'est malheureux. malheureux, mais voilà, c'est l'évolution technologique.
Mais on sait qu'à terme, cette profession est menacée par l'évolution technologique, justement.
Tout à fait. Ça fait des années qu'on en parle, mais c'est vrai qu'effectivement, là, ça s'accélère sérieusement sur la numérisation des factures, sur les enregistrements automatiques, sur le cloud où on peut stocker tous les documents, l'archivage, avec des extractions de données qu'on peut faire, des classements. Enfin, il y a des outils qui sont incroyables.
D'où l'importance de sortir de la gestion papier et pouvoir ensuite faire des traitements automatisés.
Ouais. Tout à fait. Et donc, en fait, aujourd'hui, même un cabinet comptable va porter son développement sur du conseil ou sur justement l'installation de ces outils-là chez leurs clients et commercialiser cette partie-là. Mais sur la partie opérationnelle, c'est pas l'avenir. Et donc, effectivement, le conseil est aujourd'hui partie essentielle à la vie de l'entreprise. Hein. Les clients, c'est ce qu'ils demandent. Quand ils ont un cabinet comptable, la première chose qu'ils demandent, c'est pas est-ce que ma facture va être bien saisie, même si dans l'objectif de base, c'est ça. C'est concrètement, est-ce que l'expert comptable va répondre au téléphone et répondre à mes questions.
Et sociologiquement, si je peux me permettre, votre environnement familial, ils étaient entrepreneurs ou ils étaient comptables, avec quelles origines?
Alors, moi, je viens d'une famille mixte de tout ce qu'on vient de dire là. Mon papa, alors moi initialement mes grands-parents, mon grand-père lui était artisan coiffeur. Mais il a tenu le café de la paix, le artisan coiffeur en même temps, et en même temps article de chasse et pêche, enfin de pêche, pardon, dans un petit village en Charente. Mon papa, lui, il a créé son entreprise de transport avec un associé à lui l'année de ma naissance, hein, autant vous dire, moi j'ai une sœur jumelle, donc en fait mes parents avaient déjà un enfant, enfin j'ai un grand frère, et l'année de la naissance forcément des jumelles, hein, évidemment c'est l'événement le plus facile qu'on a dans une vie. Il a lancé sa boîte en même temps.
D'accord, donc vous étiez dans un environnement initialement. Vous avez baigné dans un environnement d'entrepreneur, de créateur d'entreprise. Vous avez fait de la comptabilité qui est un moyen effectivement de gérer, de maîtriser la partie comptable qui est en France est extrêmement importante par rapport à la gestion d'entreprise. Et vous avez évolué vers du conseil. Donc on voit aussi l'influence de la sphère où vous avez évolué, vous avez grandi. Et on voit effectivement le parcours et on peut voir maintenant effectivement un peu mieux qui vous êtes.
J'ai grandi dans cet environnement de chef d'entreprise et surtout de voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison
chef
d'entreprise.
Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on ne voit pas, bien sûr.
Voilà. Entre ce qu'on imagine du patron de « Ah, t'as de la chance, t'es à ton compte ».
Alors, ma vision marxiste est terminée. Hein. Maintenant, quelqu'un qui crée une société n'est plus forcément quelqu'un d'un haut niveau social. C'est aussi le petit peuple qui se lance et qui fait quelque chose. On n'est plus dans la société anonyme contre le peuple. Hein. C'est terminé,
Non, mais c'est au-delà de ça. Mais c'est que dans l'inconscient collectif chez les particuliers, en fait, un patron n'a pas de problème. Un patron gagne de l'argent.
Oui, il va en vacances quand il veut, tout ça. Oui, tous les bons
signes. Mais c'est pas ça, en fait. Effectivement, et moi, en grandissant dans cet environnement-là, en fait, on sait très bien qu'il y a des jours où on a un estomac parce qu'en fait voilà il y a un problème avec un contrat, il y a une emmerde avec un dans la vie d'entreprise, c'est constamment des rebondissements.
Bien sûr.
Et en fait, c'est comme dans la vie privée, notre capacité à absorber ces rebondissements, à absorber les problèmes et à rebondir, c'est ce qui fait de nous en fait ce qu'on est. L'entrepreneuriat. Parce que sinon, on ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on n'a pas cette dynamique-là déjà inconsciente, on ne peut pas se lancer là-dedans. Je ne parle pas forcément du vécu familial, mais déjà dans la personnalité.
Vous êtes en position, effectivement, naturellement et par nature, de conseiller les gens qui font cette activité parce que vous avez tout le temps baigné dedans. Vous l'avez ensuite travaillé de manière théorique et mis en pratique. Ensuite, on avait les conseillers pro à la banque. D'accord, très bien.
Voilà, et puis ma sœur jumelle, elle-même, est chez l'entreprise. Elle a repris une boîte aussi. Voilà, c'est une très belle entreprise avec plusieurs salariés. Enfin, elle est à côté du Rhône. Hein. Elle n'est pas à côté de chez moi, malheureusement. Mais elle, c'est pareil. Donc, quand elle a repris sa boîte, etc., je l'ai accompagnée, je l'ai aidée, je l'ai briefée. Et puis voilà, tout fonctionne pour elle aussi. Donc, je baigne toujours dans cet environnement là en permanence. Et ce qui est bien, c'est que moi, en fait, le fait d'avoir une sœur jumelle qui est aussi entrepreneur, on a toujours fonctionné en miroir. Et c'est vrai que du coup, on se renvoie un peu comme une balle de ping-pong. Dès qu'on a des idées, on s'appelle, on échange, on se demande nos avis, on dit qu'est-ce que t'en penses. Voilà, j'ai des galères, je suis un peu en stress en ce moment. Voilà ce qui m'arrive. Comment tu vois les choses? Et en fait, on passe notre temps à interagir. Et on n'est pas seul de cette manière-là aussi, mais parce que j'ai ce contexte familial-là. Mais sinon, effectivement, en tant que dirigeant, on peut vite être seul. D'où mon métier. On en arrive à mon métier, justement.
On arrive à ton métier, Valérie. Valérie Patou. Alors, Valérie, je la tutoie parce que je la connais déjà depuis un petit moment. J'ai travaillé avec Valérie au moment du lancement de son entreprise, un petit peu. Et puis, j'ai apprécié aussi beaucoup le personnage de Valérie Patou et de son projet entrepreneurial qui s'appelle Périgord Performance TPE. Alors on va venir un peu justement sur ta clientèle, Valérie, des chefs d'entreprise, de petites structures, artisans, petits commerçants, petites PME. si je peux le résumer, parce que je les connais aussi bien, parce que j'en ai aussi beaucoup comme clients, ce sont des gens qui, la plupart du temps, comme on dit, ont la tête dans le guidon. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui font beaucoup d'heures dans leur métier. Si c'est un charcutier, bah, il fait de la charcuterie, comme on dit. Si c'est un pâtissier, il fait de la pâtisserie. Et puis, il n'a pas le temps de s'occuper réellement de la gestion de sa boîte. La gestion de son entreprise, hormis une secrétaire qui fait les obligations, factures et diverses obligations administratives. Après, c'est l'expert comptable qui traite les chiffres de ce patron. Et en réalité, personne ne sait où on va. Personne ne sait où on va parce que l'expert comptable, il sort, il analyse les chiffres, il sort le bilan une fois par an, parce que ça, c'est une obligation. Si on lui demande de sortir des chiffres et de faire une situation, ça coûte cher. Avant le bilan, ça coûte très très cher. Et puis, c'est pas réactif non plus en 24 heures. Il faut que l'expert comptable ait le temps de sortir sa situation et aussi son bilan. Donc, ça veut dire que le patron de la TPE, il est tout seul et puis il essaie de suivre sa marge qui s'est fixée et il voit pas grand-chose. Chose, hormis ses comptes bancaires qui un coup augmentent, un coup diminuent. Bref, il ne sait pas où il en est. Et ça, c'est un gros problème. Et ça a toujours été un énorme problème. Et c'est là où Valérie arrive avec sa méthode Rivalise qui est bluffante. Je te laisse la parole, bien sûr. Explique-nous un peu ce que c'est.
Ça marche. Alors oui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Patrice, la solitude du dirigeant, c'est vraiment un des problèmes numéro un, de pas savoir en fait vers qui se tourner quand il a besoin d'une information. Donc en fait, moi, je suis un outil centralisateur en fait. Hein. Concrètement, je suis une boussole. Alors Rivalis aime bien utiliser le terme du milieu de l'automobile. On est un GPS pour l'entrepreneur. Donc en fait, on va l'accompagner à la fois sur la partie le fait de rentrer des devis. C'est-à-dire des devis rentables, hein, parce que c'est la base de rentrer du chiffre d'affaires rentable et s'assurer avant même d'avoir signé les devis avec les clients qu'en fait, que si le client signe le devis, toutes les charges seront payées, à la fois les charges fixes de l'entreprise, à la fois le salaire du dirigeant, les vacances du dirigeant et les projets du dirigeant. Parce qu'en fait, la méthode Rivalis, c'est une méthode qui allie deux choses. Il y a un outil de gestion qu'on met à disposition gratuitement de nos clients puisque ça fait partie de la prestation globale. Je ne suis pas vendeuse de logiciels. Je mets à disposition un outil de pilotage qui fait partie intégrante de la méthode Rivalis. Sans cet outil, de toute manière, la méthode ne fonctionne pas. Mais elle ne fonctionne pas non plus sans le conseiller. Et c'est le facteur humain aussi qui est énorme dans notre métier. Parce que parler des chiffres, si vous voulez parler là, sur 2 heures de rendez-vous, on va peut-être en parler 45 minutes, hein, concrètement. Hein. On parle des êtres humains avant tout. Et donc, en fait, la méthode Rivalis, c'est grâce à cet outil de gestion et l'accompagnement mensuel des clients, ça nous permet en fait de connaître la situation en temps réel du dirigeant. Quel bénéfice il atteint à la fin de l'exercice? Chaque mois, en fait, en fonction des événements de l'entreprise, en fonction des devis, en fonction du chiffre d'affaires et du travail qui a été planifié, on est capable de dire 12 mois à l'avance à combien il est censé atterrir si le projet suit la théorie. Mais encore une fois, on sait très bien que la vie d'entreprise, ce ne sont que des rebondissements et notre travail, c'est d'absorber ces rebondissements et de savoir comment on gère pour l'absorber.
Est-ce que tu nous dis, Valérie, il n'y a aucun expert comptable qui est capable de faire... Ce n'est pas le métier de l'expert comptable.
Non, parce qu'en fait, nous, on répond à des questions en temps réel. C'est combien j'arrive de bénéfices à la fin d'année? Si j'arrête mon activité aujourd'hui, à combien je termine de bénéfices ou déficits? Quelle est ma rentabilité par devis? Ça, c'est super. On connaît son bénéfice net par devis. Est-ce que je peux investir? Est-ce que je peux embaucher? Moi, le client m'appelle en 5 minutes, le temps juste de saisir un élément. Je suis capable de lui dire si oui ou non, on peut investir ou on peut embaucher. Et s'il peut pas le faire, le but, c'est pas de dire juste non, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour que ce projet aboutisse. Et après, est-ce que j'ai des impayés? Mais comme tous les logiciels de devis facture qu'on met à disposition, c'est pas juste un logiciel de devis facture. Nous, c'est vraiment un outil de pilotage qui va nous permettre de piloter le carnet de commandes, le taux de transformation des devis, le volume entrant d'activité commerciale. Donc, pareil, mon travail, c'est aussi d'être critique par rapport à ça et de dire aux dirigeants, t'as pas fait assez de devis ce mois-ci, qu'est-ce qu'on met en place pour faire plus de volume. C'est ça aussi, la méthode Rivalis, c'est du volume et de la qualité.
T'as raison, moi j'ai vraiment retenu dans le travail que tu fais, ne serait-ce que de pouvoir, à la rédaction d'un devis avec le logiciel, de pouvoir savoir si oui ou non on va gagner de l'argent et combien on va gagner de l'argent.
Oui, déjà d'une, combien on va gagner d'argent? Parce qu'effectivement, un chiffre d'affaires, c'est composé de deux facteurs, la main-d'œuvre et la marchandise. Alors ça dépend effectivement de l'activité. Moi je travaille avec 70% d'artisans. 80% d'artisans. Donc en fait c'est la main d'œuvre et la marchandise. Et en fait en fonction de comment on fait le chiffre d'affaires, il nous reste pas la même chose dans la poche en fait. Parce que le chiffre d'affaires c'est une chose, mais ce qu'il faut regarder c'est ce qui reste à la fin du mois pour manger. Donc du coup mon travail c'est d'aller optimiser justement le comment je fabrique mon chiffre d'affaires de manière à ce que le dirigeant puisse jongler entre ses chantiers quand c'est possible et optimiser son chiffre d'affaires chaque mois.
Après, tu as un autre facteur qui est aussi, tu réponds à une question essentielle, mais dont on n'a jamais la réponse quand on n'a pas d'outils et de méthodes, c'est Matrezo. Oui. Matrezo, elle sera à quoi dans le trimestre prochain, tel mois? Il va me rester combien d'argent?
Alors ça, en fait, après, ça dépend l'accompagnement qu'on a avec certains clients. On peut avoir effectivement des outils complémentaires de trésorerie. L'outil de pilotage n'intègre pas la trésorerie. Par contre, sur un projet d'entreprise, quand on commence à travailler avec un nouveau client, on va dire, voilà, moi, pour être à l'aise, j'ai besoin, mon besoin en fonds de roulement ou mon besoin de trésorerie est de 50 000 euros à la fin de l'année.
Très bien.
50 000 euros à la fin de l'année. Donc ça veut dire que si on projette 50 000 euros et que le client suit le plan de marche, qu'on lui impose tous les mois, qu'on sera de la travailler ensemble. Hein. Mais moi, après, le but, c'est aussi, si on a fait un plan de marche, il faut que je m'assure qu'il soit respecté. Donc, je vais les booster, je vais les coacher, en fait, hein, concrètement, pour qu'on y arrive. Et ce plan de marche, en fait, s'il est atteint, par exemple, si on part du principe qu'on veut 50 000 euros sur un an d'accompagnement, au bout de 6 mois, on aura 25 000, c'est mathématique. Hein. Au bout de 3 mois, on aura 12 500. Et en fait, si le plan de marche est atteint, de toute manière, la trésorerie, et ça se vérifie dans 100% des entreprises que j'accompagne, si le plan de marche est respecté, cette évolution de la trésorerie, elle sera respectée aussi. Par contre, il y a juste une chose qu'il faut intégrer, c'est qu'une trésorerie à remonter dans une entreprise, même si la méthode Rivalis peut faire des miracles, et c'est le cas, on envoie des petits miracles tous les jours avec les clients, la trésorerie est toujours très très lourde à remonter. C'est plus facile d'en perdre la trésorerie que d'en regagner. Donc voilà, et c'est un travail de longue haleine et d'une rigueur extrême. Je parle pas de rigueur en termes de gestion des charges et des coûts. C'est une rigueur vraiment de pas s'emballer quand ça commence à remonter, de dire voilà, est-ce que mon projet, est-ce qu'il est pertinent à ce moment-là? C'est mon travail toujours de le temporiser entre l'intérêt économique, l'envie, parce que voilà, on reste des êtres humains et aussi il y a des dirigeants qui sont tout feu tout flamme, qui ont envie de partir dans tous les sens. Mon travail, c'est aussi de les canaliser pour que ça fonctionne en fait, parce qu'ils ont signé pour quelque chose, on n'a pas d'obligation de résultat, mais moi mon objectif, c'est quand même qu'ils réussissent. Voilà.
Et t'apportes encore une autre réponse tout à fait bluffante, parce que tu m'en avais fait la démonstration chez un client commun qui était, je m'en souviens très très bien, le client qui dit bon ben voilà, il y a un truc que personne n'est capable de me dire, pas plus mon comptable, éventuellement Dieu si j'arrive à l'interroger. J'ai besoin à la fin de l'année, dans 6 mois, de 50 000 euros parce que j'ai un projet, parce que je dois acheter un nouveau camion, parce que je veux faire un hangar, bon parce que j'ai besoin de pognon. Et comment je fais? Comment je fais pour être sûr que je vais avoir cette somme-là à la période que j'ai visée? Et toi, tu remontes, tu as carrément remonté une comptabilité inversée pour au final dire, eh ben, il faut que tu fasses tel chiffre d'affaires. Explique-nous un peu comment ça marche.
Alors, je remonte pas une comptabilité inversée, tu vois, Patrice.
Moi, je l'avais perçu comme ça.
Alors, oui, mais ça, on peut le percevoir comme ça, mais en fait, on prend l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui, avec son personnel productif, avec son niveau d'activité. Et en fait, on va juste montrer à l'entrepreneur, en fait, quel est le niveau qu'il peut atteindre avec son outil de production. Sans rien transformer à sa vie, on lui montre ce qu'il est capable de générer comme cash, comme argent, avec son entreprise. Donc, mon travail, c'est de mettre le curseur au maximum, en fonction des souhaits du dirigeant, évidemment. Et en fait, effectivement, cette sensation de comptabilité inversée, c'est que, une fois qu'on a découlé la réalité économique de l'entreprise, du maximum qu'on peut en tirer, parce que on reste sur un investissement, une entreprise c'est un investissement, et le but c'est d'en tirer le maximum de cash flow. Comme un investissement immobilier, c'est pareil. Et donc, ce cash-là, en fait, quand on me demande un projet à 50 000 euros, et on me donne le délai pour l'atteindre, c'est 50 000 euros parce qu'il faut l'argent, je vais intégrer cette charge-là supplémentaire dans l'entreprise. Et donc, je vais voir si déjà, sans rien faire, le projet y passe. Si le projet passe pas, en fait, je vais regarder l'impact que ça a sur le bénéfice futur et je vais montrer aux dirigeants ce qu'ils doivent mettre en place pour atteindre ce projet. Et ça passe par quelque chose de très simple. Une entreprise, c'est soit on vend plus cher, soit on travaille plus vite. Voilà.
C'est vrai, c'est vrai.
Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, ça n'existe pas d'autre solution. Alors, sauf qu'on me dise quoi.
Il n'y en a pas d'autre, mais la façon...
Ce qu'on travaille, c'est de savoir le combien. Parce qu'en fait, quand moi, je suis capable de quantifier, est-ce que leur prix de vente de leur travail et la juste rémunération de leur travail. Je ne parle pas juste d'un point de vue économique, c'est est-ce que leur travail est bien valorisé. Donc, mon travail, par exemple, sur un projet à 50 000, quand je fais la projection, si je vois que ça ne passe pas, des fois, en augmentant de 25 centimes ou 50 centimes le prix de l'heure, ce qui est tout à fait possible dans l'artisanat, hein, on voit en fait que le projet peut aboutir. Ou alors, on va se dire, on va peut-être essayer de vendre un petit peu plus de temps de travail sur les chantiers, une ou deux heures pour faire aboutir le projet. Ou alors, on va faire monter en compétence aussi le staff, parce que des fois, l'équipe productive, il peut y avoir des relâchements quand le dirigeant lui-même, le capitaine du bateau, il sait plus trop où il va. C'est rare que les salariés aient la réponse à sa place. Hein. Donc, quand on reprend les rênes de l'entreprise et quand il y a un cadre qui se remet en place, les salariés, en fait, quand ils savent ce qu'ils ont à faire, ils vont au bout et ils sont moins perdus. Et donc, c'est pareil, en termes de capacité productive, ils sont capables d'absorber beaucoup plus de travail. Mais attention, le but, c'est pas de mettre la pression sur les salariés. On est dans une démarche de qualité. Notre travail n'existe que parce qu'on travaille avec des gens qui font du bon travail eux-mêmes. Je ne peux pas travailler avec des mauvais artisans. C'est-à-dire que les artisans avec qui je travaille, c'est des gens qui font de la qualité, qui peuvent justifier aussi la valorisation de leur prix. Parce que quand on fait un prix, peut-être on est sur du haut du panier, quand on fait du haut de gamme ou du moyen de gamme, on est censé faire du bon travail pour pouvoir justifier son prix.
Alors Valérie, t'es une passionnée et ça s'entend
oui,
bien.
Parce pardon, que
t'as toujours été une passionnée. Non, tu vas pas trop loin. C'est que tu pourrais y rester des heures et des heures, comme tu le fais très bien avec tous tes clients que tu suis tous les mois. Et c'est une vraie valeur ajoutée d'avoir cet accompagnement, parce que on a la capacité, le chef d'entreprise a la capacité d'avoir une interlocutrice qui est toi régulièrement, une fois par mois, mettre le nez dans l'activité, dans les chiffres, mais pas uniquement dans les chiffres, avec la répercussion et les impacts que l'on doit faire dans le travail quotidien de l'entreprise et avec des résultats qui se suivent au fur et à mesure du temps. C'est du vrai pilotage que l'on a dans des structures bien sûr beaucoup plus importantes, avec des équipes, avec de la compétence et des outils informatiques très puissants que ne peut pas bien évidemment avoir un artisan. Mais toi, tu es capable d'arriver au même résultat avec ta personne et surtout avec cette méthode qui fonctionne depuis déjà longtemps. Merci Valérie, parce qu'on va malheureusement devoir se quitter parce qu'une demi-heure ça passe très très vite. Stéphane, tu as un petit mot à nous dire ?
Oh, j'aurais voulu parler de la sociologie des personnes que madame rencontrait, mais là on n'aura pas le temps. Mais je sais que j'ai rencontré énormément de comptables qui avaient ce discours, qui faisaient du conseil et autres, mais qui n'avaient pas forcément les épaules ou le cran de prendre la responsabilité d'assumer leur velléité de management et autres. Je remarque aussi effectivement, et en disant un peu international, qu'en France, la vision comptable a énormément d'importance et qu'on arrive maintenant à ce qu'elle est tellement d'importance qu'elle devient quasiment du management de notre activité. Donc on se retrouve à travailler aussi pour l'aspect administratif et autres. Et j'encourage les gens, effectivement, à se tourner vers ce genre de solution parce que l'environnement est nécessaire. Patrice, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, on rappelle quand même que si on veut trouver Valérie Patou de sa société Périgord Performance TPE qui est à Brantôme, vous tapez Périgord Performance TPE et vous tapez aussi Rivalis sur Internet et vous aurez bien sûr Valérie sur le secteur Périgueux-Brantôme.
3E.
À bientôt, à très bientôt, voilà. À vous tous. Merci Valérie.
Au revoir.
Au revoir.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP.
Radio Libre en Périgord.